Le journal avec vous, bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
À la une ce matin, les avocats qui refusent de remettre leur robe, ils ont voté hier soir la poursuite du mouvement contre la réforme des retraites. Les autres titres, Sarah.
Cette semaine a donc scellé le sort d'Isabelle Kocher à la tête d'Engie et l'État actionnaire, une nouvelle fois, n'a pas été facteur d'apaisement. La mort de l'écrivain Pierre Guyotat, une œuvre foisonnante marquée par la guerre, le sexe ou l'idiotie, nous le réentendrons. Et puis à Venise, le carnaval s'annonce triste après l'inondation et avec le virus respiratoire qui menace les voyages en avion, les touristes se font rares. Vos invités ce matin, Eric.
À partir de 8h20, le ministre Julien de Normandie, chargé de la ville et du logement.
France Inter. Les avocats ont décidé de poursuivre hier soir la grève contre la réforme des retraites. Le Conseil national des barreaux, qui représente les 70 000 avocats de France, a voté à l'unanimité. Le gouvernement veut faire entrer la profession dans le système, futur système universel, ce qui signerait la fin de leur régime autonome de retraite, avec une hausse de leurs cotisations insupportable pour les avocats les plus modestes, disent-ils. Cette grève perturbe les tribunaux depuis un mois maintenant, mais les robes noires réfléchissent aussi à d'autres modes d'action. Corinne Audouin.
À l'unanimité, les votants ont choisi la poursuite du mouvement en laissant à chaque barreau le choix des modalités. La grève, mais aussi les recours en justice, comme les demandes de remise en liberté ou tout autre mode d'action pour faire entendre leur voix. Car après un mois de grève dure, les avocats constatent que le gouvernement ne recule pas sur sa volonté de leur faire intégrer le système universel de retraite. Pour la présidente du Conseil national des barreaux, pas question pour autant de renoncer. Christiane Ferral-Schul.
Je ne vais pas vous dire qu'une grève ne soulève pas des difficultés. C'est difficile pour les avocats, bien sûr. C'est difficile pour les citoyens. Mais ce mouvement a du sens. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que ceux qui sont directement visés, ce sont les avocats qui font du droit de proximité, qui accompagnent le justiciable. C'est un mouvement totalement inédit, historique. On va rentrer dans la 5e semaine de mobilisation, mais les enjeux sont considérable.
Opposé à la réforme, le Conseil national des barreaux a également voté pour la poursuite des discussions avec le gouvernement sur les aménagements possibles. Les avocats réclament notamment un simulateur fiable et des garanties sur le financement du système.
Dans les transports parisiens, notez que ce sont désormais 4 syndicats qui appellent à une journée morte le 17 février, début de l'examen de la réforme des retraites en séance plénière à l'Assemblée nationale. Le texte patine toujours en commission, plombé par 22 000 amendements de l'opposition. Les travaux qui devaient se terminer hier soir vont se poursuivre tout le week-end.
Isabelle Kocher a défendu son bilan hier dans un message aux 160 000 salariés d'Engie.
Nous sommes devenus un acteur mondial de référence pour contribuer à maîtriser le réchauffement climatique, se félicite la directrice générale, évincée jeudi par le conseil d'administration. En mai, il faudra lui trouver un successeur ou une successeur à la tête du géant de l'énergie. L'État aura voix au chapitre, comme dans toutes les entreprises où il est actionnaire, à défaut d'être toujours un bon directeur des ressources humaines. Simon.
Chez Engie, comme chez Renault ou Air France, l'État actionnaire ne veut pas de cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Dans son portefeuille, 12 entreprises ont une gouvernance dissociée, Dexia, Renault, Safran ou les chantiers de l'Atlantique. Mais la méthode n'évite pas les psychodrames, comme chez Engie, où l'État a tardé avant de siffler la fin de la partie. Difficile d'évincer la seule femme dirigeante du CAC 40, devenue porte-drapeau de la transition énergétique. L'État ne voulait ni vainqueur ni vaincu. Au final, il n'y a que des perdants, explique un syndicaliste. Chez Renault, le nouveau patron Jean-Dominique Senard a attaqué publiquement son principal actionnaire, attribuant l'échec du projet de fusion entre Renault et le groupe Fiat Chrysler à Bercy, du jamais vu. Plus apaisé, la gestion du premier patron étranger d'Air France KLM, le Canadien Ben Smith. Chez Engie, le futur directeur exécutif sera choisi par un cabinet de recrutement indépendant, explique Bercy. Mais l'État aura bien sûr son mot à dire.
Delphine Simon, j'ai raté quelque chose, reconnaît ce matin dans l'équipe le patron de la Fédération des sports de glace, Didier Gayaguet. Tout en clamant sa bonne foi, il ouvre la porte à un possible départ après les scandales de violences sexuelles qui secouent le patinage français depuis une semaine. Son sort pourrait être scellé ce matin à l'issue d'une réunion de la Fédération. Il était discret, encore méconnu du grand public et il est considéré pourtant comme un monument de la littérature. On a appris hier soir la mort de Pierre Guyotat à 80 ans. 15 ans. Plutôt qu'écrivain, il réclamait le titre d'artiste, sculpteur des mots et d'une langue française qu'il réinventait pour décrire l'horreur de la guerre d'Algérie, notamment qu'il avait connue comme conscrit dans Tombeau pour 500 000 soldats. Tout jeune, il avait aussi connu la censure pour Eden, 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 considéré comme obscène en 1970 et qui avait pourtant manqué de peu le prix Médicis, un prix qu'il recevra finalement il y a 2 ans pour son livre Idiotie. Alors l'idiotie, c'est quoi? Lui avait demandé Augustin Trapenard sur France Inter.
Alors idiotie, c'est un terme que qui va très bien avec ce livre, ce texte, je crois, et avec tout ce que je fais, parce que à côté de ces textes plus ou moins autobiographiques, si vous voulez, j'ai écrit une œuvre de fiction. Et dans cette œuvre de fiction, mes figures, enfin mes personnages, pour parler plus académiquement, si vous voulez, sont des figures. Et toutes mes figures sont des figures d'idiots, c'est-à-dire de gens qui sont irresponsables, qui n'ont souvent même pas d'existence légale, hein, comme les putains par exemple, ou les autres. Et même dans ce livre, toutes les figures sont un peu idiotes, si vous voulez. Celles de mes camarades, moi-même d'abord. Toutes ces filles dont on ne sait pas très bien si elles parlent ou pas, etc. Tous les gens sont, et même les militaires, enfin même les gradés sont dans cet état-là, si vous voulez.
Pierre Guyotat dans Boomerang du 3 septembre 2018 que vous pouvez réécouter sur franceinter.fr.
Évidemment, comme dirait Augustin Trapenard. La France renforce les mesures de surveillance pour les personnes qui rentrent de Chine.
La ministre de la Santé Agnès Buzyn leur demande de rester chez elle. Pour les 6 patients hospitalisés dans l'Hexagone, les nouvelles sont rassurantes, sauf pour l'homme de 80 ans, toujours dans un état critique. En Chine, le bilan s'élève à 722 morts et près de 35 000 personnes contaminées. Ce virus respiratoire est désormais plus meurtrier que le SRAS de 2003. Une semaine après le Brexit, on vote aujourd'hui en Irlande. Le Premier ministre sortant, Leo Varadkar, met en avant son rôle dans les négociations pour éviter le retour d'une barrière douanière, mais il est en chute libre dans les sondages. Les quelques 5 millions d'électeurs retiennent surtout la crise économique, 10 ans d'austérité depuis le sauvetage des banques. Direction Venise à présent. Les masques et les costumes sont prêts, mais qui pour les porter et les admirer cette année? Le carnaval débute ce soir, mais après l'Aqua Alta d'il y a presque 3 mois, les touristes ne sont pas revenus. Sur la place Saint-Marc, on veut pourtant y croire, a constaté Bruce de Galzin, notre correspondant en Italie.
À coups de perceuse et de marteau, la grande scène de la place Saint-Marc prend forme. Elle accueillera les défilés costumés et le traditionnel vol de l'ange. Fabrizio Doria est l'organisateur du carnaval de Venise.
Derrière nous, on a le grand campanile de la place Saint-Marc, 90 mètres. Une jeune fille qui a gagné le concours de la Maria, la plus belle fille vénitienne, va descendre dans la place Saint-Marc et accueillie par 30 000 personnes.
Fabrizio Doria est un grand optimiste car pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde à Venise. Kathleen vient de Belgique pour le carnaval.
Je me suis dit, ils vont se préparer comme un peu partout, mais à part en vitrine, les masques, on ne voit rien. Pour le moment, rien. Pour moi, il n'y a personne. Je pensais franchement que ce serait full.
Venise est vidée d'une partie de ses touristes presque aussi vite que l'Aqua Alta. Un phénomène éphémère pourtant, mais qui inquiète encore les touristes 3 mois après. Cette année, les réservations ont chuté de 40% dans l'hôtel de Gianni Serandrei.
Parce qu'ils ont l'impression que la ville est détruite, inondée. Certains ont peur de se retrouver dans des situations catastrophiques. Ce qui n'est vraiment pas le cas.
Et même les Vénitiens se rebellent. Ceux qui protestent contre le trafic des bateaux à moteur dans les canaux vont boycotter leur propre défilé dimanche matin. À Venise, Bruce de Galzin, France Inter.
Le carnaval de Venise, c'est donc parti pour 15 jours et une fois n'est pas coutume, il doit donc rester de la place, Eric, si vous ne savez pas quoi faire de vos vacances.
Eh bien, j'irai dans ce carnaval à la douce odeur des fritelles, hein, ces beignets vénitiens qui ne sont servis que durant ce carnaval de Venise. C'était le journal de Sarah Guibaudot.